7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est professeure de droit et de sciences politiques, président de la FNSP, la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
Oui, Nicolas, et aussi romancier. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Léa Salamé.
Vous publiez votre premier roman,
oui.
Colette et Jacques chez Plon, une biographie hommage à vos parents, à votre famille, une grande famille française au cœur de tous les pouvoirs politiques et intellectuels, un récit très romanesque qui commence sous la Seconde Guerre mondiale et qui se termine à la fin des années 80, un temps où les élites n'étaient pas haïes, sans doute parce qu'elles faisaient la preuve de leur utilité. Qui étaient Jacques et Colette ?
Jacques, c'était un jeune homme qui s'est retrouvé orphelin de père à l'âge de 15 ans, qui accueillait les réfugiés à la Baule avec une telle efficacité qu'il est devenu chef de la Croix-Rouge pour l'accueil des réfugiés au même âge de 15 ans, qui ensuite est rentré en résistance, qui a fêté, si j'ose dire, ses 18 ans à la prison de Fresnes. Et après, qui a fait Sciences Po, l'ENA, la première promotion de l'ENA qui s'appelait France Combattante, qui était une promotion réservée aux résistants et assimilés, si je puis dire, et qui ensuite a servi toute sa vie l'État, serviteur de l'État, c'est une expression qui n'existe presque plus, et qui, quand on lui demandait ce qu'il faisait, il répondait « je suis serviteur de l'État ».
Et Colette ?
Et Colette était née dans un milieu plus bourgeois. Son grand-père avait été un self-made man qui avait créé une entreprise dans la colle et la gélatine et qui avait fait une petite fortune au début du XXe siècle. Et elle était passionnée par les livres dès son plus jeune âge et donc elle a vécu dans l'édition, elle a dirigé l'édition La Table Ronde dans les années 50 jusqu'à ce que elle finisse par se fâcher avec le cofondateur Roland Lodenbach qui a toujours été très très à droite mais sur la torture en Algérie là il s'engueulait trop et ensuite elle a travaillé chez Gallimard sur la littérature anglo-saxonne et quelques années après la mort de mon père elle a été madame Claude Gallimard donc elle a toujours été passionnée par l'édition, sauver des librairies. L'histoire que j'adore c'est quand elle publiait des premiers romans à la Table Ronde, elle faisait 2-3 librairies pour aller acheter le livre en disant on m'en a dit le plus grand bien et elle rentrait à la maison et mon père lui disait mais enfin t'es complètement dingue, tu achètes les livres que tu édites, oui c'est pour les pousser.
Et d'ailleurs elle vous a appris une règle que vous avez appliquée, que vous avez appliquée encore ce matin, on ne sort pas sans un livre à la main.
Ah bah oui, comme ça quand on attend on ne s'ennuie pas.
Et puis c'est chic.
Pourquoi vous dites ça ?
C'est chic un livre à la main, surtout de nos jours. Dans un très bel article consacré à votre livre dans Libération, Laurent Jonfrain parle de ce temps béni où les élites françaises servaient leur pays, une France sans CAC 40, où les jeunes Rastignac ne rêvaient pas de monter une start-up pour se retrouver sur un tas d'or à 40 ans, où l'élite était celle du service public et où les gens d'en haut justifiaient leur position par l'amélioration du sort de ceux d'en bas. L'élite qui a suivi celle de vos parents, celle des années 80, 90, 2000, a-t-elle oublié cela ? A-t-elle oublié l'intérêt général, le sens de l'État ?
Écoutez, d'abord, j'ai adoré ce papier de Laurent Jonfrain, parce que c'est pas, je savais pas qu'il allait faire un papier, c'est pas spécialement mon copain, et je trouve qu'il a mis le doigt sur quelque chose de très important pour moi, mais qui était totalement implicite dans le roman. À aucun moment, je fais des comparaisons comme ça, mais au fond de ma tête, c'était vraiment ce que je pensais, et je pense que c'est la réalité. Oui, les élites administratives et encore plus politiques ne sont pas ce qu'elles étaient il y a 30, 40, 50, 60 ans, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est moins la responsabilité directe des hommes que d'un système qui a changé. La valeur dominante aujourd'hui, ça a été le fric. C'est pas Dominique Seux qui me contredira après sa chronique sur Carlos Ghosn.
Les meilleurs aujourd'hui, la grande différence, c'est que les meilleurs aujourd'hui ne vont plus en politique, alors qu'il y a 40 ans, ils ne rêvaient que de cela.
Voilà, et aujourd'hui, ils vont pour l'essentiel dans le monde de l'entreprise ou de la finance, et puis parfois dans celui des médias.
Ils vous ont appris, c'était une génération, vos parents, qui voulaient changer le monde, dites-vous.
Oui.
Ils vous ont appris le goût de la liberté. La liberté absolue. Vous dites qu'elle a quitté la table ronde sur fond de dissension sur la guerre d'Algérie. Votre père aussi menaça de quitter, quand il était conseiller d'Edgar Faure sous la 4ème République, il menaça de quitter son poste au moment où Faure voulait gracier Charles Maurras avec cette phrase célèbre « Mon silence vaudrait approbation, mon départ sera mon cri ».
Et c'est en italique dans le roman, parce que je précise au début que les citations en italique sont véridiques, ce qui veut dire que les autres sont romanesques, reconstituées. J'ai eu la chance de retrouver cette lettre de page de mon père absolument incroyable. Il a 28 ans, il est jeune conseiller auprès du garde des Sceaux, et juste ça que Edgar Faure doit donner un avis au président de la République sur la grâce. Et la simple idée qu'il le soutienne, pour lui, c'est trop, et il fait cette... Oui, c'est plus important. Il y a mon père avait pour vertu absolue la tolérance, et en même temps, il y avait une ligne au-delà de laquelle ça n'existait plus, c'était inacceptable. Bon, alors ça a été la saloperie collaborationniste pendant la guerre, mais ça a pu être la simple idée de défendre la grâce de Maurras, etc. etc.
Ce goût pour la liberté, ils l'auront aussi dans leur couple. Vous racontez leur coup de foudre au début de leur rencontre, et puis la passion fulgurante de votre mère avec Roger Nimier, une passion que votre père comprendra, qu'il acceptera, et puis plus tard, quand il sera malade, votre père, il encouragera même votre mère à se rapprocher de Claude Gallimard, qui sera son deuxième mari. En fait, il l'aimait trop pour être jaloux, ou c'était juste une certaine notion de la liberté amoureuse qu'il avait?
Quelques proches me reprochaient un peu d'être limite impudique, mais moi j'ai raconté ça parce que je trouve ça extraordinaire, tout simplement. C'est-à-dire que je trouve que aimer une femme au point où, quand vous savez que votre vie va se terminer, vous vous dites, il faut absolument qu'elle vive après moi, et pour vivre après moi, il faut qu'elle vive avec quelqu'un, comme il l'a expliqué, y compris à ses enfants. Ça a quelque chose je trouve ça a quelque chose d'exceptionnel dans l'étendue de l'amour, et que donc, autant que ça serve, sinon d'exemple, en tout cas qu'on le raconte.
Ce moment qu'on vit aujourd'hui, Olivier Duhamel, certains le comparent aux années 20, d'autres évoquent la Commune de Paris, certains plus rares parlent de mai 68. Quelle comparaison historique vous semble pertinente, et qu'est-ce que vos parents auraient pensé de l'époque ?
Alors, quelle comparaison historique ? Absolument aucune, parce que elles n'ont pas de sens. Celle qui en aurait un très 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 vague sur quelques aspects, ce serait mai 68, parce que c'est une révolte imprévue, originale, parce qu'on peut constater dans le timing qu'au bout de 3 semaines, on fait une grande concession sociale, après on cherche une sortie politique, comme aujourd'hui on peut pas prendre la sortie politique dissolution, parce que le pouvoir en place se ratatinerait, on invente le grand débat. Bref, il y a quelques points communs comme ça, mais sinon c'est totalement inédit. Ce qu'on aurait pensé mes parents, alors ça, là, vous me posez vraiment une colle. Peut-être qu'ils auraient pensé que au début, c'est un mouvement qui a une très grande importance, parce qu'il révèle quand même des souffrances et des failles dans notre société trop ignorées, trop cachées.
Et après,
que c'est un mouvement qui prend parfois des aspects et des tournures soit ultra-violentes, soit ultra-réactionnaires, soit les deux, qui sont déplaisantes.
Vous qui avez écrit un maître-livre sur la Ve République, le fait que ce grand débat soit mis en place 1 an et demi seulement après l'élection d'un président de la République, est-ce que c'est pas la preuve, par son existence même, ce grand débat, que nos institutions sont à bout, que la Ve République est morte ou va mourir, ou au fond non, elle en a vu d'autres, la Ve?
Non, elle en a vu d'autres, la Ve. Est-ce que vous auriez pu me poser exactement la même question au milieu du mois de mai 1968, en changeant 3 mots et en me dire donc que la Ve République est à vous? Au contraire.
Il n'y avait pas les réseaux sociaux et les chaînes d'infos. Hein.
Au contraire. Il y a eu une chronique faite sur votre antenne ce matin sur un documentaire qui passe ce soir, que j'ai pas vu, mais sur les présidents de la République face à des crises. Qu'est-ce qui les aura permis de tenir à chaque fois? Ce sont nos institutions. S'il n'y avait pas la Ve République, mais Macron, il serait plus au pouvoir depuis longtemps. Donc je pense pas qu'on puisse dire ça. En revanche, que dans toutes les grandes démocraties, il y ait un problème de vitalité démocratique, il y a un problème de l'incroyable défiance, la terrible défiance, et pas qu'en France, des citoyens, et qu'il faille y trouver des réponses, bien entendu.
Ma dernière question, ce sera une demande d'aide à Thomas Legrand, qui tous les matins tente péniblement, depuis 1 an et demi, d'expliquer le macronisme.
Oui.
Est-ce que vous pouvez l'aider, Olivier Duhamel? Le macronisme, c'est quoi, selon vous, en 3-4 mots?
En 3 mots, c'est en même temps. Parce que quel que soit le sujet, par exemple, dans sa lettre, c'est absolument flagrant. Dans sa lettre, si je simplifie extrêmement les choses, je ne changerai rien, je construirai un nouveau contrat qui changera, vous avez le droit de parler de tout, vous n'avez pas le droit de mettre en cause l'ISF. Bon, je caricature à peine, je surligne à peine. Donc, oui, ce qu'il caractérise en positif, c'est ça, et ce qu'il caractérise en négatif, c'est parfois trop d'arrogance.
Voilà, j'espère que vous allez aider Thomas Legrand ce matin.
J'ai pris des notes.
Colette et Jacques, chez Plon, par le jeune romancier Olivier Duhamel. Merci à vous et belle journée.
Merci à vous.